en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui même, parti de rien, absolument pas destiné à la scène ni à la caméra. Ses chansons et ses rôles au cinéma ont traversé le XXe siècle et participé du rayonnement de la langue et de la culture française. Comment Yves Olivi, le fils d'immigrés italiens communistes, est-il devenu le monstre sacré dont la voix, la force de conviction, le regard amusé et complice aussi, restent dans nos cœurs 30 ans après sa disparition. Sa dernière épouse, Carole Amiel, qui lui a donné sur le tard son seul enfant, Valentin, publie un très beau livre avec des photos de cinéma, des photos de famille, des documents plus personnels aussi qui nous font revivre mon temps, avec des témoignages également recueillis par le journaliste Luc Lariba, témoignages qui montrent combien il a compté pour plusieurs générations d'artistes de la chanson, du cinéma et d'ailleurs. Yves Montand, La force du destin de Carole Amiel avec Luc Lariba est publié aux éditions de La Martinière et vous m'en direz des nouvelles.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Bonjour Carole Amiel.
Bonjour.
Bonjour Luc Lariba.
Bonjour.
C'est par Les Feuilles Mortes qui me semblait assez évident de commencer cette émission. C'est sans doute la chanson la plus mythique qu'a interprétée Yves Montand. Paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma. On l'entend dire, on l'entend chanter ces mots-là. C'est comme si toute la sensibilité de Montand s'exprimait à cette occasion. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous réentendez? Parce que j'imagine que vous l'avez entendu des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de fois,
ne serait-ce qu'en tournée en 82.
Carole Amiel, on l'entend à chaque fois d'une façon différente.
Elle nous rend toujours nostalgique, puisque je crois qu'elle s'adresse à tout le monde, à Montand aussi, par rapport à ce qu'il a connu dans sa vie. Et c'est vrai que cette chanson est... Où que vous soyez dans le monde, lorsqu'on entend cette chanson-là, on pense à la France et on pense à Montand.
Voilà, il en a fait d'innombrables versions, hein, Luc Lariba. Les Feuilles Mortes, c'est le titre du dernier chapitre du livre, qui fait une page.
C'était une manière de... comme l'a dit Carole, de conclure et à la fois d'ouvrir le livre sur la fin avec toutes les annexes qu'il y a, la filmographie, la discographie, tout ça, parce que c'est aussi une manière de... c'est une chanson somme, en fait.
Oui, une chanson sobre et une chanson à part, clairement, qui a acquis un statut que... Ouais.
Une chanson unique dans son propos et comme le disait Carole, une chanson internationale, quoi, où qu'on soit... On est tout de suite avec Montand, on est tout de suite avec la France, c'est un voyage, cette chanson.
Alors, il a mis 2 ans à la poser, excusez-moi.
Oui, parce qu'au départ, le lancement n'a pas été si évident que ça.
Après, non, c'est devenu un tube incroyable. À chaque fois qu'il a chanté sur scène, il comprenait pas, les gens n'applaudissaient que très peu, il était obligé de l'encadrer par 2 chansons très envolées.
Oui, alors ça, c'est étonnant, quand même.
C'est très étonnant, et ça a duré 2 ans.
Et un jour, il y a eu un déclic?
Et un jour de 3-4 applaudissements, il en est arrivé 15-20 et puis un peu plus et puis alors là ça fait le tour du monde. Mais il a mis 2 ans à imposer cette chanson.
Voilà, c'est vrai que c'est assez extraordinaire avec le recul. Alors tous les chapitres, Luc Lariba, sont titrés avec des chansons de mon temps, comme si elles annonçaient les grandes périodes de sa vie. C'est comme ça que vous avez découpé l'ouvrage ?
C'est comme ça, ouais. C'est une discussion qu'on a eue avec Carole et puis avec l'éditrice. On cherchait comment, dans cette vie immense et cette vie intense, comment, on va dire, construire un peu son parcours, reconstruire son parcours. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée de prendre des chansons symboliques de Mantan que tout le monde connaît et qui se rattachent à une période importante de sa vie. Donc, on a ouvert.
Voilà, on va les entendre hein, tout au long de cette émission. Comme ça, on aura une vision la plus précise possible de la façon dont vous avez construit l'ouvrage. Comment vous avez fonctionné tous les deux, Luc Laribas? En fait, c'est Carole Amiel qui vous a ouvert sa malle au trésor?
Je suis allé voir Carole Amiel il y a 3 ans, tout au début, et je lui ai proposé de faire un livre. Et ça s'est passé très simplement, très naturellement. On s'est dit, bon, ben, il va falloir écrire la biographie de Mantan. Bon, donc, c'était logique que ça soit Carole qui l'écrive. Et moi, ce que je voulais surtout, c'était faire parler des gens qui sont encore là, qui ont connu Mantan, qui ont travaillé avec Mantan, ou d'autres qui se situent dans la lignée de Mantan par leur personnalité, parce qu'ils sont ou par les spectacles qu'ils ont pu faire.
Donc il y a des réalisateurs, il y a des metteurs en scène, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des paroliers. Enfin, ils viennent d'horizons extrêmement variés.
Exactement.
De toutes les générations.
Et donc on a construit le livre comme ça, en ponctuant dans le corpus de la biographie des témoignages comme des focus sur ce qui était dit.
Avec donc force documents, donc il y a beaucoup de photos, donc comme je le disais, des photos très personnelles, très intimes, des photos de films, aussi des pages de carnet, aussi vous avez tout gardé,
oui,
Carole Amiel, il y a de quoi faire un musée Mantan, là hein.
Oui, mais alors là, j'aurais plus rien à la maison, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire, j'ai beaucoup, beaucoup de photos, j'ai encore beaucoup de sa garde-robe,
oui.
Donc dont une partie est exposée d'ailleurs au Château de la Buzine à Marseille, jusqu'à la fin de l'année, dans une très belle exposition, mais c'est vrai que oui, j'ai beaucoup de choses que j'ai conservées, oui, parce que je pensais que pour Valentin, ce serait important.
Oui.
Si un jour Valentin veut s'en séparer, ce sera lui de le faire, en tout cas, ce n'était pas à moi, et je n'en avais pas du tout envie.
Et c'est Valentin qui ouvre le livre, il fallait que ça commence avec lui. Il a 32 ans aujourd'hui, il en avait 2 au moment, oui, du décès de son papa. C'était important pour vous, pour lui, que ce soit lui la première voix du livre?
Mais je dirais que oui, c'était important parce que c'est aussi ce garçon qui sera en charge effectivement de parler de lui dans le futur. Jusqu'à présent, je l'ai fait puisque je me suis occupée de lui toute seule. Mais c'est vrai qu'il a un travail, qu'il a certaines obligations et il a accepté de faire cette préface et surtout de rattacher cela à son sentiment qu'il a, le ressentiment qu'il a aujourd'hui d'être papa. Mmh. Et il s'aperçoit dans les yeux de sa petite fille Margot, il s'aperçoit que finalement il connaît Yves Mantan, le Mantan que nous connaissons tous, mais il a très peu connu Yves Olivier, son papa, et c'est une sorte de blessure qui reste au fond de son cœur de n'avoir pas pu être élevé vraiment par lui, même s'il connaît sa voix, même s'il connaît ses films, même s'il connaît ses chansons. Mais disons que le papa Yves Olivier, il aurait bien aimé pouvoir en profiter davantage.
Oui, bien sûr. Alors les chansons et les films, et tout au long du livre qui est bâti vraiment de façon chronologique, et on le disait, vous évoluez entre la chanson et le cinéma, justement, vous faites, si j'ose dire, le grand écart entre les deux. Et il se trouve que l'une des toutes dernières photos, c'est pas exactement la dernière, mais quasiment la dernière, eh bien, le montre de façon aérienne, qui s'envole comme ça, en bord de scène,
oui.
Un grand écart aérien, donc
oui.
Les bras et les jambes tendus et bien parallèles. C'est une bonne allégorie de ce que fut Mantan.
Ah, ben oui, parce qu'il était quand même d'une certaine façon athlétique, surtout là, il a à peu près une trentaine d'années, 35 ans maximum. Et c'est vrai qu'il était d'une souplesse extraordinaire et c'est vrai qu'il faisait des choses en scène extraordinaires.
On a l'impression qu'il survole,
oui,
la complètement. S'élever, c'était, oui, ça aussi sa philosophie.
Ah ben ça a toujours été quitter son million social, comme vous l'avez dit au départ, plus pauvre que pauvre, et donc pour quitter ce niveau social défavorisé, il fallait que il a relevé le défi de son frère en acceptant de chanter sur une estrade, et puis on lui a trouvé quelques talents, et puis on a essayé de, en tout cas, ce fameux Berlingot, le monsieur qui l'a poussé sur l'estrade, lui a trouvé un certain talent, il l'a emmené effectivement voir quelqu'un qui lui a appris un peu à chanter plus en mesure d'abord et surtout juste, voilà.
Dans les plaines du Far West quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis.
Dans les plaines du Far West, la première chanson à succès d'Yves Montand, qui aurait donc eu 100 ans aujourd'hui, Carole Amiel et Luc Lariba. Yves Montand, donc Yves Olivier, de son vrai nom, né dans une petite ville toscane le 13 octobre 1921. Contexte politique très, très violent à l'époque, on est en pleine montée du fascisme en Italie. Mussolini va arriver au pouvoir quelques mois plus tard. Et le père du petit Ivo, qui est militant communiste, décide de partir, de quitter son pays. Et c'est ainsi que le petit garçon va se retrouver à Marseille en 1924. Il a 3 ans à ce moment-là. Il y a de nombreuses photos de famille dans le livre, Carole Amiel. Une vraie famille italienne, telle que l'on peut se l'imaginer. Oui, c'est un peu cliché, mais pas tant que ça, en fait.
Non, c'est une vraie famille italienne, très soudée, malgré la pauvreté, qui s'aime, qui va être tout à fait, comment dirais-je, dès que Montand va gagner un tout petit peu d'argent, il va être très fier à 11 ans de rapporter le maigre argent à ses parents.
Oui, le maigre argent, c'est pas la misère non plus, mais c'est comme une vraie pauvreté.
Pauvreté. Ils avaient quand même, vous savez qu'il y a 3 enfants, quand les parents quittaient la maison le matin, les 3 enfants n'avaient qu'un œuf à manger pour toute la journée. Donc comment partager cet œuf pour que ce soit de la façon la plus équitable? Quand on dit ça aujourd'hui,
oui, on
vous
a du mal à se rendre compte de ce que c'était, effectivement. Oui. À l'époque, il a quitté l'école à 11 ans.
À 11 ans.
C'est une vraie blessure, ça? Ou bien c'était tout
non,
simplement,
il fallait passionné, le faire? Non, il a surtout quitté l'école pour aider sa famille.
Voilà, et pour travailler.
Et pour travailler. Donc on a falsifié sa carte d'identité pour qu'il puisse pouvoir travailler, parce qu'il en faisait 13 ou 14.
Oui, et c'est vrai qu'il a travaillé dans une usine de pâtes alimentaires, je crois. Oui. Et ensuite, le fameux salon de coiffure de sa sœur. Il est allé jusqu'au CAP, il fallait qu'il s'accroche, mais sa vraie passion, elle est époque, Luc Lariba, c'était déjà le cinéma, quoi. Il a les yeux tournés vers Hollywood, le petit garçon.
C'est ça, mais c'est un garçon de Marseille, et Marseille à cette époque, c'est aussi les bateaux qui s'en vont pour l'Amérique. Donc il y a cette idée de voyage, et lui, il vit le cinéma de manière très forte. C'est-à-dire que les films le nourrissent, le font sortir de son quotidien, de sa misère, et lui en mettent plein les yeux. C'est un rêve. Au tout départ, il voulait être acteur, il voulait pas être chanteur, il voulait être acteur, et il est devenu, il a été chanteur pour pouvoir accéder
à
son rêve d'acteur.
Donc rêve d'acteur de films américains, Capra, Temple, Fred Astaire, il fait des claquettes aussi.
Fred Astaire, c'était son idole, Henri Fonda.
Ouais.
Il adorait Henri Fonda.
Gary Cooper aussi.
Alors, il fait une petite figuration dans La prière aux étoiles. Alors, c'est un film pas très très connu, parce qu'en fait, c'est pas un film achevé, un film de Pagnol.
C'est ça, c'est un film qui n'a pas été achevé de Pagnol. Pagnol, à l'époque, avait une revue de cinéma, et il était tombé dessus, Montand, comme quoi Pagnol recherchait des figurants. Il a fait des essais, il a tourné, mais le film a été resté inachevé.
Voilà, et c'est donc par la chanson qu'il va faire ses premiers pas d'artiste. On est en 1938, il y a un radio crochet qui est organisé pas très loin de chez lui, sur un terrain de boules, on est vraiment à Marseille. Il se fait repérer par ce fameux Berlingot, et il choisit son premier nom de scène. Alors, son premier nom de scène, c'est Yves Treschnell. Alors ça, c'est déjà tout un programme. Pourquoi Yves Treschnell, Luc Lariba?
Ben, très schnell, très comme traîner, comme chevalier, et Nell comme Fernandel, parce que ce sont ces trois illustres acteurs, chanteurs, comédiens, artistes de musical qui, à l'époque, sont déjà des bonnes vedettes, des grandes vedettes, surtout traîner et chevalier, et qui l'inspirent, qui sont en France ce que lui sera quelques années plus tard.
Mais alors, comment est-il devenu Montand? Parce que passer de Treschnell à Montand, c'est pas si évident que ça.
Non, c'est pas si évident. Et puis surtout, Treschnell, bon, c'est mignon, mais ça faisait pas vrai nom de scène. Je suis pas sûr qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue avec ce nom-là. Il aurait sûrement rechangé après. Non, c'est venu Montand parce que sa mère lui disait, quand il jouait avec les gamins dans la cour de là où il habitait, elle lui disait souvent « Ivo Monta ». Donc, monter, en italien, on dit « Monta », donc c'est devenu Montand.
Voilà, donc Yves Montand.
Mais il était très attaché à l'orthographe de son nom aussi. Ah. Il fallait surtout pas l'écrire
avec un T. Oui, bah oui, bon, homme de gauche. En plus, bon, en plus, ses vrais amis l'appelaient Montand. Je crois qu'Aurélien n'a pas Yves, mais il l'appelait Montand, tout simplement.
Oui, absolument.
Voilà, et c'est une façon pour vous, je crois, de repérer ceux
qui le connaissent vraiment. Oui, c'est Simone Signoret qui avait instauré ça, parce qu'elle est mariée à un Yves Allégret. Évidemment, quand elle a été ensuite mariée à Yves Montand, quand elle disait Yves à Montand, elle pensait à Yves Allégret. Donc, elle a instauré le fait que tout le monde l'appelle Montand, et les vrais intimes l'appelaient toujours Montand.
Voilà, il y a plein de petites infos savoureuses comme ça dans le livre.
Alors, comme Yves Allégret qui est né le même jour que Montand.
En plus,
ah,
incroyable.
Oui, comme quoi, incroyable, les clins d'œil du destin. Alors, comme souvent à l'époque, hein, les jeunes chanteurs commence dans les petites salles de quartier. Ensuite, quand ça commence à fonctionner, on monte un tout petit peu la capacité. Il y a des salles un peu plus importantes qui sont venues comme l'Alcazar de Marseille. La guerre n'a pas vraiment freiné sa carrière, en fait, Luc Laribas.
Elle l'a pas arrêté, elle l'a ralenti. Mais il est resté quand même une petite vedette. Il a réussi à s'en sortir, et surtout pour s'en sortir, il est allé dans la gueule du loup. Il est monté à Paris parce que c'était quand même la ville où il y aurait plus de facilité. C'est ce que lui a dit son agent à l'époque, de s'en sortir plutôt que de rester à Marseille. Sûrement, s'il était resté dans le Sud-Est, il aurait tourné en rond pendant longtemps.
Puis en plus, il est Pardon.
Allez-y.
En plus, il était recherché par le STO, qui voulait
le service du travail obligatoire, qui voulait donc l'emmener travailler en Allemagne.
Et donc, comme il devait y échapper, il a préféré monter à Paris pour se cacher en pleine lumière. Enfin, c'était sa façon de le dire.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. J'aime flâner sur les grands boulevards, il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard, on se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards.
Yves Montand, qui commence donc à Paris, à l'ABC, et qui continue à tourner dans les cabarets parisiens. Il va recevoir, Carole Amiel, un énorme coup de pouce quand même, de la part de quelqu'un qui s'appelle Édith Piaf.
Exactement. Ils se rencontrent parce que justement, elle veut quand même l'auditionner malgré quand même le succès qu'il avait dans le Sud. Et elle est absolument bluffée par sa voix, par surtout sa présence sur scène. Et puis lui, ce sera réciproque, parce que dès qu'elle commence à entonner, il est resté pétrifié en la regardant, tellement il y avait de talent derrière cette voix magique.
Alors justement, comment est-ce que vous l'entendez, cette voix qui a évolué évidemment au cours
la voix de Montand.
Au cours de sa carrière, comment est-ce que vous pourriez décrire la voix de Montand à quelqu'un qui ne l'aurait jamais entendue?
Ah, C'est difficile. Moi, je dirais que c'est une voix mordorée par le temps, par l'âge. On a vu d'ailleurs sur les quatre extraits que vous venez de programmer, c'est vrai qu'on sent une voix beaucoup plus jeune et beaucoup plus, j'irais peut-être un peu aiguë, alors que avec le temps, sa voix s'est mordorée au fil de son âge et je trouve qu'elle est devenue même encore plus belle.
Oui, et on sent effectivement cette capacité qu'il avait à introduire de la nuance, des expressions, du sentiment dans son jeu sur scène, évidemment.
Absolument.
Très important, mais aussi dans sa voix, jusque dans, oui, dans son timbre. Ça, oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Extraordinaire.
Il interprète la chanson. C'est vraiment de l'interprétation pure.
Oui, bon, et je pense que pour les jeunes générations, je crois qu'il faut rappeler aussi que Montand, on appelait un one-man show, maintenant ils connaissent ça d'une autre façon, mais à chaque fois qu'il chante une chanson, c'est une petite scénette, en fait, parce qu'il mimait, il mettait un chapeau, comme dans Sir Godfrey, enfin, il y avait beaucoup de chansons, et tout était mimé, donc il y avait une véritable mise en scène de chaque chanson.
Alors, pour revenir à Édith Piaf, donc tout ça a un petit peu bluffé, comme vous le disiez, Carole Amiel, il y a une lettre d'Édith Piaf que vous
très
publiez
amoureux,
dans le livre.
Oui.
Quel est le contenu de cette lettre?
Elle est très amoureuse de lui, elle l'appelle mon adoré. Et c'est vrai que c'est une femme, m'a dit Montand, qui, lorsqu'elle tombait amoureuse, alors vous étiez le centre du monde, le plus beau, le plus merveilleux, le plus extraordinaire. Il n'y avait que vous qui existiez. Puis deux ans après, malheureusement, elle l'a lâché. Et pour lui, c'était son premier véritable grand chagrin d'amour, parce qu'il n'avait pas eu de vraie histoire d'amour avant Édith Piaf.
Autre rencontre importante, Luc Laribal, celle du pianiste Bob Castella.
Ouais. Ben c'est Bob Castella, mais c'est aussi tous les autres musiciens de Montand, c'est Crolla, c'est du jazz, c'est cette atmosphère-là de swing et de jazz qui règne dans la fin de la guerre, début d'après-guerre. C'est des musiciens qui viennent, certains du jazz manouche, mais qui récupèrent à la fois la musique manouche, mais aussi il y a un certain classicisme dans la musique qui communique. Il y a une vraie symbiose qui est faite entre les... Ils se sont tous trouvés, en plus tous sont émigrés. Donc oui, il y a ce côté-là aussi.
Mmh. Oui, et il voit du monde, hein, parce qu'il se fait vraiment petit à petit sa place à Paris. Alors j'imagine qu'en plus Édith Piaf l'a aussi un peu aidé à constituer un petit peu son carnet d'adresse,
comme on dit
aujourd'hui, mais pas qu'elle.
Comme il le disait, quand on est avec Piaf, on est aussi dans son rayonnement.
Oui.
Donc il y a une lumière qui émane d'elle, et qui on est obligé d'être
sous le spot
de Piaf, quoi.
Voilà.
Donc, de se fait des rencontres.
Voilà, on va pas tous les citer, mais il y a Reggiani, Carnet, Prévert, entre autres. Il y a Loulou Gasté aussi, un témoignage très intéressant de Lynn Renault dans le livre.
Ouais, elle débutait à peine, et Loulou avait écrit des chansons pour Montand, et Lynn Renault est arrivée sur scène par un coup de pied magistral au cul que lui a donné Montand.
Voilà.
Tellement elle avait le trac, donc il y a toujours eu cette... il a chanté les chansons de Loulou Gasté jusqu'au bout. Parce qu'il lui devait aussi ça.
Ouais, alors il y a beaucoup de monde qui gravite autour d'Yves Montand à Paris, mais aussi quand il part en villégiature dans le sud, à Saint-Paul-de-Vence. À ce moment-là, Saint-Paul-de-Vence, c'est the place to be, Carole.
Oui, c'est le Saint-Germain-des-Prés du Sud,
voilà.
On dira. Voilà. Où les intellectuels, les artistes, qu'ils soient peintres, que metteurs en scène, acteurs, chanteurs, enfin bref, viennent se retrouver dans une auberge qui s'appelle la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Et donc, voilà, où ils se rencontrent et ils évoluent ensemble.
Il y a un vrai esprit de bande?
Oui, il y a un vrai esprit de bande. Là-bas, Montand retrouvait Reggiani, Françoise Arnoul. Il y avait, voilà, les copains de Paris descendaient aussi dans le Midi, comme Prévert qui avait une petite maison là-bas à Saint-Paul. Et donc, il y avait aussi Simone Signoret qui avait une petite maison avec son mari Valet Grec.
C'est l'avant Saint-Tropez, Saint-Paul. En fait.
Oui, c'est l'avant Saint-Tropez. Voilà,
donc sans bling-bling.
Voilà, sans bling-bling, mais avec la pétanque quand même. Hein, parce qu'il y a des photos de pétanque. Il a toujours aimé jouer à la pétanque.
Oui, toujours.
Ça faisait partie
Je crois que Saint-Paul, il a connu en 49, donc il a toujours aimé jouer à la pétanque.
Même à Marseille, il jouait quand il était gamin. C'est obligé.
Oui. De toute façon, il n'avait pas le choix, c'était parfaitement naturel pour ce Marseillais d'adoption. Et c'est vrai, donc là, à Saint-Paul-de-Vence, qui rencontre, vous l'avez dit, Carole Amiel, Simone Signoret. Bon, c'est un énorme coup de foudre.
Absolument.
Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, sauf qu'elle est mariée, elle est maman.
Oui.
Au départ, c'est un petit peu compliqué.
Au départ, c'est un peu compliqué, mais ça va être irrévocable.
Voilà, et donc
c'est ce qu'on appelle vraiment un vrai coup de foudre, quoi.
Ouais.
Et elle finira par quitter son mari.
Voilà,
avec sa petite fille.
Par se marier, donc avec Montand, et s'installer à Paris, place Dauphine, c'est ça,
voilà.
En 51. Alors à ce moment-là, Ça marche bien pour mon temps. Il est en haut de l'affiche déjà, ah, là, oui, déjà. Au tournant de l'année 50, oui.
Ah bah il est
en tant que...
De la chanson, oui. Voilà, parce que le cinéma, ça met un peu plus de temps.
Oui, ça met plus
à
de
s'installer,
temps.
Hein.
C'est quand même plutôt le comment le salaire de la peur en 53 qui va commencer à le où il va avoir déjà un rôle important. Mais si vous voulez, les autres films sont pas forcément.
Voilà, le salaire de la peur d'Henri Georges Clouzot, voilà. Bien sûr, premier vrai succès au cinéma. Il joue Joe aux côtés de Charles Vanel. Il a failli jouer avec Gabin, quoi.
Ouais.
Il a failli jouer avec Gabin, avec c'était Gabin qui était préposé à la place de Vanel. C'est très drôle la relation Gabin-Montand parce que il a remplacé Gabin dans Les Portes de la Nuit. Gabin a récupéré le rôle dans La Traversée de Paris. Il devait être partenaire dans Le Salaire de la Peur. Montand a appelé Gabin pour un conseil amical au moment de La Folie des Grandeurs. Il y a une vraie relation entre ces deux personnalités qui sont deux images de la France du XXe siècle. Quoi.
Mais est-ce qu'ils appartiennent à la même lignée d'acteurs, Gabin et Montand?
Montand est un instinctif, un vrai instinctif, c'est-à-dire qu'il calculait pas, Gabin non plus, mais Gabin est vraiment, déjà il est né avant la Première Guerre, donc il y a vraiment ce côté d'une traversée du siècle total, d'avoir connu les deux guerres. Ils ont chacun vécu la Deuxième Guerre de manière très différente. Gabin, c'est un naturel total, brut, on le modelait pas facilement. Montand, ça pouvait être modelé, on l'a vu, quand il va chez Godard, c'est pas du tout le même que quand il va chez Costa-Gavras.
Ouais.
Après, ils avaient tous les deux peut-être en commun, on va dire, ce côté instinctif de sentir, de voir ce qui était bon pour eux ou pas.
Et donc, c'est dans la lignée du film Le Salaire de la Peur de Clouzot que commencent petit à petit les succès de Montand au cinéma. Cette fois-ci, on l'a dit, il était déjà très très populaire dans la chanson. Il y a des films comme Les Héros sont fatigués, par exemple, Dave Champy, Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, un succès qui finira même par l'amener aux États-Unis.
Sa mère dansait dans les bars, imitant Jean Harlow. Son père lançait des poignards au cirque à Buffalo. Puis un jour on lui a dit go west et il a pédalé de New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors il a usé ses coudes à frotter les comptoirs avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Le long de 107 boulevards, bras dessus, bras dessous, perdent leur dernier dollar dans les machines à sous.
Here we stand and we argue, but
Alexander
are
Dumas,
we thinking of
the three musketeers?
Let's not make with the baby.
Faker.
Let's make love.
Why do I like you?
You just love my embraces cold. They'll fit like a glove. We could get down to kisses, maybe. Kiss me, baby.
Un extrait de la scène finale du Milliardaire, le film de Cocor et ce duo torride entre Montand et Marilyn Monroe, en anglais ou plutôt en américain dans le texte. Hein, vous racontez d'ailleurs dans le livre que le texte en anglais, ça le terrifiait, ça, Montand.
Bah, c'est surtout qu'il connaissait pas du tout la langue anglaise, il a appris tout son texte phonétiquement. Vous vous rendez compte, si on demande demain d'aller faire un film en Russie et que vous appreniez tout phonétiquement parce que vous ne comprenez pas un mot, c'est la folie.
C'est inimaginable.
Mais en même temps, comme disais, on me propose de tourner avec Marilyn Monroe, je ne pouvais pas
dire non. Ben c'est
non,
mais il y a un dessin très étonnant dans le livre d'Écrivez-le nous, c'est incroyable.
C'était sa façon
ça,
de...
C'est incroyable.
Oui.
Donc il y a un personnage comme ça, avec les différentes parties du corps,
voilà,
et des flèches comme ça qui arrivent à chaque partie du corps avec le mot anglais qui correspond.
Le mot anglais, oui. Il n'a jamais cessé de vouloir devenir meilleur en anglais, oui.
C'était très impressionnant dans ses archives de retrouver justement ce cahier anglais dans lequel il y a les cours de grammaire et d'orthographe anglais. Française, oui. 1960, au moment où il tourne le film. Et c'est vrai que le petit bonhomme qu'on a mis dans le livre, donc avec tous les membres du corps rattachés par des flèches au schéma avec les noms en anglais, c'est assez impressionnant. Ça montre tout son désir de travailler et d'apprendre à la perfection.
Voilà, c'est le perfectionnisme qui est vraiment l'un des fils rouges de sa carrière. Mais alors justement, pour revenir à cette scène-là, donc il y a la langue anglaise, hein, et puis le baiser de cinéma, évidemment, oui. avec Marilyn. Il y a une vraie complicité, une vraie amitié entre Marilyn et lui.
De par leurs origines sociales, je pense qu'il y a une vraie complicité. Mais en fait, en même temps, les deux couples étaient très amis. Je veux dire, il s'est passé... Bon,
Marilyn et Miller d'un côté, et Signoret et Montand
de l'autre. Ils avaient chacun un bungalow l'un en face de l'autre. Et je crois qu'ils s'entendaient tous les quatre très très bien. Et puis, il y a eu une grève qui a duré 3 mois. Vous savez, des grèves très dures aux États-Unis. Et du coup, Miller a été obligé de retourner à New York pour finir les Misfits, je crois. Et Simone devait tourner en Italie. Et donc, Montand et Marilyn restent pendant 3 mois tout seuls. Bon, voilà. Ce qui s'est passé, objectivement, n'aurait pas dû se passer, mais voilà. Ça s'est passé.
Et vous citez Marilyn dans le livre, hein, qui vient le voir chanter à Broadway et oui. qui lui dit le soir de la première, je le trouve formidable car il chante avec tout son corps. Oui. C'est un bon résumé.
C'est vrai. Il avait une douceur, il avait quelque chose de félin quelque part sur scène. Et il y a une autre actrice que nous aimons tous, Catherine Deneuve, qui disait effectivement la même chose. Elle disait, j'ai jamais rencontré un homme qui avait une aussi belle démarche que celle de Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
La bicyclette, Yves Montand, Sels, dans VMDN sur RFI avec Carole Amiel et Luc Lariva qui publie Yves Montand, La force du destin aux éditions de La Martinière, un livre avec de très belles photos d'archives, quelques autres documents personnels, on les évoquait à l'instant, mais aussi un livre de témoignages, hein, de ceux qui l'ont côtoyé. Luc Lariva, on va pas tous les citer, il y en a tellement vraiment dans le monde du
beaucoup,
cinéma,
il y en a même, notamment, il y en a même eu tellement qu'on a dû malheureusement en couper, mais bon, c'est comme ça. Mais oui, on a
bon, Costa Gavras, Lelouch, Rapneau, Benex, Labro,
Jean-Louis Lévy, Olivier Martinez, Mathilde Damé,
voilà,
Bruel
voilà. Bon, il y a des gens qui malheureusement se sont disparus, hein, comme ouais. Corneau ou Sauté par exemple. Donc gros travail d'archives pour vous, ouais. Et aussi travail d'aller chercher les témoignages d'entretien.
Un des plus beaux a été celui quand même de Jean-Louis Dabadie, qui a été fait un mois avant qu'il décède. Michael Londal, pareil. Ça a été fait pendant le confinement, avant le confinement aussi, parce que j'ai quand même commencé bien avant. Et après, il y a des témoignages remarquables auxquels j'ai pensé tout de suite, qui s'imposaient qui s'imposaient directement, comme Jean-Louis Livy, le neveu d'Yves Montand et son agent, comme Jean-Paul Rapneau, parce qu'il y avait deux films, et puis d'autres qui m'ont été insufflés par Carole, et que je remercie, parce que je ne serais pas allé voir tout de suite David McNeil, et ça a été un bonheur de m'entretenir avec lui pour évoquer Montand chanteur, parce que voilà, Montand chanteur, c'était pas évident de trouver quelqu'un pour parler du chanteur.
Mais comment vous avez procédé? Vous leur avez dit à chacun de ses interlocuteurs, bah, parlez-moi de Montand, tout simplement. Bien, vous êtes arrivé avec des questions, des envies extrêmement précises. Questions journalistes. Oui.
Sur certains, il y avait, c'était, là, par exemple, David McNeil, ça a été 2 heures, j'ai pas eu besoin de poser de questions. Après, Jean-Paul Rapneau, ça a été fait sur plusieurs fois parce que c'est quelqu'un de très prolixe, d'adorable, qui a beaucoup d'anecdotes. Donc, on a fait ça en plusieurs moments. Alors oui, j'avais des listes de questions. Pour des réalisateurs, bah, c'était plus calibré autour des films. Pour d'autres, comme Jean-Louis Livy, bah, là, je me suis dit, ça va être énorme de le faire parler. Ils se sont tous prêtés au jeu. Je les remercie tous parce que ça a été, pour certains, c'était pas la première fois, comme Costa Gavras, mais on a refait un entretien. Il a dit des choses qu'il n'avait jamais dites. Donc, c'était un vrai plaisir. Et puis, à chaque fois, avec le temps, bah, les souvenirs, certains souvenirs sont plus précis ou une analyse de l'homme, de l'acteur sont différentes.
Jean-Louis Livy, que vous évoquiez à l'instant, donc neveu de Montand, qui sera aussi son agent, vous dit que le film qui retient en premier, c'est César et Rosalie, avec la fameuse scène du restaurant, face à Romy Schneider.
Non, mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. Merci. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
On peut avoir un peu de beurre, là, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur.
Merci. Bon. De toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
Tu ne vas pas me dire que là, tu ne penses pas à lui.
Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Puis oui, je pense à lui. Je ne sais pas s'il est beau, s'il est... Je m'en fous. Toi, je ne sais pas pourquoi je t'aime.
Oui, mais tu m'aimes.
Oui. Oui.
On dirait que ça ne t'arrange pas.
Non.
Bon, elle est assez extraordinaire, cette scène. Vous la connaissez presque par cœur.
Il y a toute une génération d'acteurs qui la connaissent aussi par cœur. Tel Bruel, Lindon, toute cette génération, ils adorent ça. Et Vincent, François Paul et les autres, c'est deux films de Sautet impressionnants parce que, oui.
Oui. Alors, Sautet qui parle du caractère enfantin de Montand, de sa part d'enfance, ça aussi vous...
C'est ce qui faisait son charme, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une sorte, conservé ou qui avait gardé une sorte de naïveté, un côté enfantin, qui revient d'ailleurs beaucoup dans les témoignages que Luc a recueillis, et c'est vrai que bah, dans la vie, il était comme ça également.
C'est ça qui vous a séduit chez
Montand? C'est toujours séduisant quand vous voyez un monsieur qui a, bah, je dis pas, qui a tout réussi, qui connaît énormément de choses, surtout que nous avions une différence d'âge importante, et qui tout à coup bloque sur une bêtise, quoi, comme aller chercher de l'argent dans un distributeur automatique. Il prenait sa carte, mais il revenait jamais avec de l'argent. Parce qu'il n'arrivait pas à le faire marcher, alors il était toujours... Voilà. D'abord parce que c'était Montand, il y a beaucoup de choses aussi qui ne pouvaient pas aller, par exemple, s'acheter, je ne sais pas, à l'époque, il habitait à côté de la Samaritaine, donc je veux dire la Samaritaine, mais c'est vrai, il ne pouvait pas aller dans un magasin acheter certaines choses, donc il y avait un côté, effectivement, d'une certaine partie de la société qu'il ne connaissait pas bien.
Allô, appelez-moi le taxi, vite! Comment va le taxi?
Qu'est-ce que c'est que cet ostrogoth?
Bon, alors passez-moi Turin, le 222-2222. Comment, dans une heure? Ben, enfin, c'est tout de même vraisemblable. Oui, bon, j'attends.
Non, mais pardon, monsieur. Qui que vous soyez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas grand-chose. Je tiens une maison calme. Si vous arrivez ici pour briser ma porte, le téléphone et mes oreilles, j'appelle la gendarmerie.
Oh, la gendarmerie, dans une demeure aussi charmante. Mais je comprends, je ne me suis pas encore présenté. Baron César Anselme de Maricorne, consul général chargé des relations culturelles auprès des offices maritimes de l'Union latino-américaine, entre autres.
Mais je suis ravie, excellente.
Enchanté.
Enfanté, voilà, un extrait du Diable par la queue, évidemment, de Philippe de Broca. Comment est-ce qu'il se comportait sur un plateau de tournage, montant Luc Laribas?
Ça pouvait être quelqu'un d'affreux pour les réalisateurs et une patte incroyable. Le Diable par la queue a été un film très très important déjà dans sa carrière, parce que c'est en le voyant dans ce film que Claude Sauté a eu l'idée de César et Rosalie, et c'est en le voyant dans ce film que Jean-Paul Rapneau a eu l'idée de lui pour Le Sauvage. Sur le tournage, Montand, parfois c'est les réalisateurs comme Corneau, ils pouvaient accepter que Montand se mêle de tout. Philippe Labreau acceptait aussi, mais bon, il essayait de tempérer. Avec Jean-Paul Rapneau, au début, ça a été très dur sur Le Sauvage, parce que Jean-Paul Rapneau est un réalisateur très méticuleux, qui sait ce qu'il veut exactement. Et comme Yves Montand avait l'habitude de faire ses mises en scène, lui aussi, il avait son mot à dire. Donc, c'était à double tranchant, ça pouvait très bien passer et parfois ça n'allait pas.
Bon, respect en tout cas, parce que bourreau de travail, tout le monde le dit, ouais. Laborieux, dit Labreau, l'angoisse c'est presque son moteur, dit Pierre Granier de Fer dans le livre, la minutie, hein, vraiment la travail. Même ses interviews à la télévision, il les préparait.
Ah oui, lorsqu'il changeait par exemple pas de sa vie, parce qu'il il connaissait mieux quiconque, mais je veux dire, dès qu'il parlait politique, oui, il avait un petit carnet dans lequel il avait découpé des coupures de presse collées dans ce petit carnet, il pouvait vous citer exactement, et parce qu'elle savait, il savait exactement où elle était dans son petit carnet, et il citait la citation réelle et le jour et l'heure à laquelle ça avait été prononcé. Ah non, il a toujours été méticuleux pour tout.
Alors, cette femme, tu veux te la marier?
Oh oui, ça je voudrais bien, mais elle ne voudra pas.
Et pourquoi?
Parce qu'elle est belle et que moi je suis vilain.
Elle a du bien?
Elle a pas grand chose.
Elle a une bonne santé?
Oh, ça oui, papy. Elle est forte comme une jument, elle a de beaux petits muscles. Hein. Je l'ai vu piocher. Pour biner mes œillets, elle le ferait mieux que moi. Hein. Et puis aussi, elle a de l'instruction. Hein.
Ah, comment tu le sais?
Oh, elle est tout le temps en train de lire des livres. Des fois, une heure sans s'arrêter.
Oh, mais c'est pas bon, ça. Une fille pauvre qui lit des livres, ça me plaît pas beaucoup. Et puis, une femme trop belle, c'est pas toujours bien sérieux. Tu as dans l'idée qu'elle est honnête?
Oh, ça oui, papé, c'est la Sainte Vierge Sauvage. Si elle disait oui, ce serait une femme extraordinaire pour moi. Je serais heureux comme un roi. Mais elle ne voudra pas.
Une fille pauvre n'a jamais refusé un souverain. Alors, il faudrait qu'elle soit complètement folle.
Et toi, papé, si elle disait oui, tu serais d'accord?
Je ne veux pas te dire oui sans savoir qui c'est. Allez, joue, grand imbécile, ouvre-moi la porte, dis-le-moi.
Non!
Voilà, incroyable, Johnny Depp dans le rôle du papé César Soubéran, une très belle scène évidemment avec Daniel Auteuil en Ugolin, dans Manon des Sources de Claude Berry, deuxième volet de L'eau des collines de Pagnol, 14 millions de spectateurs au total, et une photo dans le livre, Carole Avi. Le Montand en papé, pour moi, c'est l'une des plus belles photos du livre.
Ah oui, il est magnifique, oui, ça, le papé, et Dieu sait s'il voulait pas le faire au départ, parce qu'il, voilà, il voulait pas se vieillir, mais c'est Claude Berry qui l'a vraiment piégé en lui faisant faire des essais avec Coluche, qui normalement devait faire Ugolin.
Puis c'est le rôle de toute une vie, hein. C'est un peu le rôle
somme. Le point culminant de sa carrière, c'est la légende de la photo.
Ouais, c'est ça, c'est un rôle somme qui fait revenir pour se grimer, pour jouer ce personnage. Il s'est inspiré de ses réminiscences toscanes, de sa famille toscane, pour créer ce personnage. C'est vraiment un film somme. À partir de là, je pense qu'il aurait pu en partir sur une carrière, une fin de carrière, assez forte et remarquable.
Autre film très populaire aussi, un petit peu plus tôt, hein, on remonte un peu dans le temps, au début des années 70, La Folie des Grandeurs, comédie de Gérard Oury avec Louis de Funès.
Il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures, oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait ça.
Oh, ça alors.
Regardez sous le lit.
Parce que moi, la reine, je l'aime.
Moi, la valet, chose.
Une vraie et belle comédie populaire, hein, que la Folie des Grandeurs, tournée en Espagne. Il a beaucoup hésité à s'y rendre, d'ailleurs.
Mais il y avait des problèmes politiques à l'époque, surtout à cause de Franco.
C'était l'époque de Franco, ouais. Hein, évidemment. Ça, il voulait
pas y aller.
Il devait
condamner, je crois qu'il y avait des gens qui étaient condamnés à mort. Il y a eu la grâce, ils ont été graciés quand même. Et du coup, il a accepté de se rendre.
Mais tout s'est bien passé, après. C'est quand même formidable. C'est Gérard Horry gaulliste, Louis de Funès royaliste, Montand sympathisant communiste. Et le tournage, nickel.
Bon, il a jamais pris sa carte, hein, du Parti communiste. Non. Sur quelles valeurs était-il intransigeant, Montand, politiquement parlant, s'entend?
L'honnêteté, la vérité. Et lorsque, justement, le communisme, pour lui, c'était aussi l'engagement de son père, de son frère, c'était dans sa vie.
Mais quand il a fait une petite tournée dans les pays de l'Est, il a pris un sacré coup sur la tête.
Là, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait ce qu'elles étaient. Et puis après, écoutez, il y a eu Budapest, déjà, et donc là, il a pris tout ça, les chars russes qui envahissent Budapest, voilà. Et puis, en 68, c'était la rupture avec Prague. Et là, de ce jour-là, il n'a plus cessé de dénoncer le communisme.
Je voudrais qu'on termine par la dernière photo du livre, qui est page 207, on voit Montand sur scène, qui écarte un rideau rouge, le rideau habituel du théâtre, et qui regarde l'objectif du photographe. Qu'est-ce que vous lisez dans son regard, Carole Amiel?
La malice. Il a un œil coquin, malin, c'est tout Montand. Là, c'est pour le film 3 places pour le 26, mais c'est une très jolie photo, qui est peu connue.
Oui,
j'étais contente qu'elle finisse le livre.
Oui, quelle est l'image que vous gardez de lui là? Comme ça, s'il y a une image qui vous vient tout de suite à l'esprit.
Son sourire plein de tendresse. C'est un homme gentil, Montand, qui respectait les autres. Et puis ce visage malicieux, charmant.
Merci beaucoup à tous les deux, Carole Amiel et Luc Lariba. Yves Montand, La force du destin, aux éditions de La Martinière. Et on se quitte en chanson.
Des jours heureux, une colombe, des soirs qui tombent, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtés de moi, ôtés de nous. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus des combats, le cœur qui bat, les défaites, souvent secrètes, et tous les doutes qu'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multipliés par les idées, divisés par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le beau temps et l'herbe qui pousse entre temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Moins ceux qui sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes.
L'édition Yves Montand dans VMDN sur RFI, dans un instant l'info. Demain et pour quelques jours, Amélie Beaucourt sera à ma place et donc avec vous. Elle recevra demain Samira El Ayachi pour son roman Le Ventre des Hommes aux éditions de l'Aube, et vous m'en direz des nouvelles.
Sur trois verres de Prévert, mais ce sont des verres libres.
RFI.